Bonjour. Je vous inviterai à tourner avec moi dans Apocalypse 22, au verset 6. Apocalypse, chapitre 22, le verset 6. Donc, au verset 6, on lit « Et il me dit, « Ses paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. » Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Dehors les chiens, les gens chanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. »
Un mariage se prépare. Je vous le dis. D'abord, ici dans l'Assemblée du Cap, nous insistons que les jeunes mariés aient reçu un cours de préparation de mariage et les vieux mariés aussi. Et pour avoir célébré quelques centaines de mariages à travers les années, je vous dis qu'il y a toutes sortes de préparations. La robe de la mariée, il faut le choisir. Ça ne se fait pas dans une matinée. Les fleurs. Hey, il faut choisir la mariée aussi. Hein? Et la mariée. Il faut décorer l'église. Il faut choisir la musique. Toutes sortes de préparations. Puis j'ai l'habitude de dire à l'épouse, au futur, à la future épouse, arrangez-vous pour que tout soit prêt 4 ou 5 jours d'avance. Pour pas que vous soyez tellement fatigué la journée de votre mariage, que vous ne puissiez pas vous en réjouir. Moi, j'en ai vu des épouses pleurer pendant le mariage, fatiguées, pas préparées. Et nous aussi, nous tous, nous attendons un grand mariage. Le Seigneur revienne. Les noces de l'agneau. Nous sommes l'épouse du Christ. Il revient nous chercher. Ça fait presque 2 ans, je crois, que nous étudions l'Apocalypse. Il y a toutes sortes de détails. Il y a certains de ces détails-là que je ne prétends pas comprendre à 100%. Peut-être que certains de chez nous, de nous, on pourrait avoir des petites différences sur certains détails. Mais je pense que une des choses qui nous unit dans ce passage, c'est ceci, c'est que Jésus revienne. Et non seulement qu'il revienne, mais il revient bientôt. Il y a une grande vérité dans les Écritures qui a été crue à travers les années par les chrétiens en général. Ça s'appelle l'imminence du retour du Seigneur. ça veut dire ceci, c'est que le Seigneur pourrait revenir n'importe quand. Le Seigneur pourrait revenir avant que je termine de prêcher ce matin, puis vous seriez épargnés de m'écouter. Le Seigneur pourrait revenir ce soir, avant de dîner, cette semaine. Et il y a deux, je pense, extrêmes qu'il faut éviter. Il faut se dire le Seigneur peut revenir n'importe quand. Mais il ne faut pas non plus mettre des dates. Hein? Puis je ne comprends pas que lorsque le Fils de Dieu sur la terre a dit que moi-même je ne sais pas la date de retour, de mon retour, qu'il y ait des hommes dans l'Église qui sont suffisamment intelligents, qui s'amusent à mettre des dates. Et toutes sortes de sectes et toutes sortes de mal a été, des sectes ont été fondées, puis du mal a été fait à le corps du Christ, au corps du Christ, par des personnes qui ont voulu mettre des dates. L'imminence du retour du Seigneur. Dans 1 Corinthiens, Paul dit à cette église qu'ils étaient dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église de Corinthe, voilà 2000 ans, attendait que Jésus revienne. À l'église de Thessalonique, Paul va dire ceci quand on raconte à notre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. L'église de Thessalonique aussi était caractérisée par ceci, ils attendaient le retour du Seigneur. Jacques, le frère du Seigneur va dire ceci, « Soyez dans passion, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Ça va mal? L'Église à Jérusalem était persécutée. Le peuple de Dieu avait souvent faim. Ça allait mal économiquement et politiquement. Jacques dit, « Sois patient, le Seigneur revienne. » Paul va dire à Tite, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, et de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. » Aux Philippiens, Paul va dire, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et Jésus lui-même va dire dans ce passage que Guillaume a lu pour nous, trois fois, « Je viens bientôt » dans le verset 7, le verset 12 et le verset 20. Le Seigneur revient. Dans cet apologue, dans cette terminaison, dans cette fin de l'Apocalypse, nous ne voyons pas de nouvelles choses. Je crois que nous pouvons le diviser comme ceci. Nous voyons devant la réaction du croyant, devant le fait que Jésus-Christ va revenir bientôt, nous voyons la réaction du croyant, d'abord dans les versets 6 à 12. Et deuxièmement, nous voyons l'invitation, où j'aurais pu écrire les invitations, dans les versets 13 à 21, on le divise ainsi, la réaction du croyant et l'invitation. Commençons par parler de la réaction du croyant. Je crois ici que nous avons quatre réactions ici, entre les versets 7 et les versets 12. Nous avons d'abord une obéissance immédiate dans le verset 7. Deuxièmement, nous avons une adoration immédiate dans les versets 8 et 9. Troisièmement, nous avons une proclamation immédiate dans les versets 10 et 11. Et dans le verset 12, nous voyons un service immédiat. Donc, nous allons commencer par voir une obéissance immédiate. Ce passage au verset 7 commence avec le mot « et ». Et le mot « et » dans l'Apocalypse dénote souvent un changement d'interlocuteur, un changement de personne qui parle. Jusque maintenant, dans ce chapitre, si je comprends bien, c'est un ange qui parle, mais au verset 7, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Puis remarquez qu'au verset 7, il y a une bénédiction qui est attachée à ses paroles. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux. C'est cette même heureux qu'on trouve dans le psaume premier, heureux l'homme qui ne fait pas certaines choses, mais qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès des eaux. Dans les Béatitudes, dans Matthieu 5, au début de ce sermon sur la montagne prononcé par notre Seigneur Jésus-Christ au début de son ministère, nous avons ces « heureux ». C'est toujours au pluriel dans l'original. C'est plutôt « bienheureux », »,« très heureux ». Il y a une bénédiction attachée à cette obéissance. En passant, il y a toujours une bénédiction attachée à l'obéissance. Et des fois, on trouve que c'est difficile d'obéir. Et des fois, on trouve que ça coûte d'obéir au Seigneur. Mais il y a toujours une bénédiction qui est attachée à l'obéissance. Remarquez bien ici que cette prophétie doit nous conduire à un changement de vie. Encore une fois, je vois deux extrêmes. Des personnes qui ne sont pas du tout intéressées dans l'étude de la prophétie et qui trouvent ça pas intéressant ou pas à propos. Mais l'autre extrême, c'est des personnes qui parlent juste de ça. Je vois dans les librairies chrétiennes et comme personne qui travaille fort pour éditer de bons livres, au moins je pense que c'est des bons livres, je viens fatigué de voir des livres extrêmes sur la prophétie qui font toutes sortes de... En tout cas, c'est de la folie, c'est la foutaise souvent dans ces livres-là. Des interprétations extrêmes, on prend ça et on fait ça avec. Comme j'ai dit tantôt, on prédit des dates. Mes chers amis, la prophétie et le livre de l'Apocalypse n'est pas donné pour satisfaire notre curiosité. La prophétie doit nous conduire à un changement de vie. La parole du Seigneur ici, ce n'est pas heureux celui qui connaît tous les détails de l'Apocalypse et qui a une signification pour chaque poil de la barbe de l'Antichrist et qui peut identifier parfaitement toutes les personnes dans l'Apocalypse, puis toutes les dates, puis toute la suite des événements. Mais heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Lisez les exhortations qui sont données aux sept églises. Comment le Seigneur peine dans son cœur lorsqu'il voit ce qui se passe dans l'Église. Puis efforçons-nous à obéir à ses paroles et à d'autres dans l'Apocalypse. Une obéissance immédiate. Le Seigneur ne demande pas une obéissance dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 2 mois. Le Seigneur, c'est une obéissance immédiate. Quand le Seigneur appelait des personnes dans les évangiles, c'était toujours « Laissez les morts enterrer les morts, viens suivre-moi. » Deuxièmement, nous avons une adoration immédiate. Parce qu'une bonne compréhension de la prophétie doit nous conduire à l'adoration. Jean, ici, au verset 8 et au verset 9, il a une réaction qui est tout à fait normale. Vous savez que l'homme est un être superstitieux, que l'homme naturellement adore quelque chose. C'est très intéressant dans notre société lorsque nous rejetons le Dieu de la Bible, on adore n'importe quoi. Puis regarde donc les journaux, puis écoutez les nouvelles, puis qui en adore depuis une semaine? Il est mort lui aussi. Hein? Oh ouais. Pauvre Michael Jackson. Pauvre gars. Il fait pitié, il ne fait pas pitié. C'est-à-dire qu'il pèsait 112 livres quand il est mort. C'est quoi la maladie lorsqu'on... Anorexie, oui, anorexique. Mon frère était ici, il demeure en Caroline du Nord. Il m'a montré dans un journal américain qui a amené avec lui, qui disait que les prescriptions, les ordonnances médicales de Michael Jackson lui coûtaient 58 000 $ par mois. On adore. Puis je suppose que c'est un grand musicien, moi je n'ai écoute, les goûts ne sont pas discutés, là. Mais y a-tu fait pitié? Puis on ne peut pas juger si toutes les accusations sont vraies ou pas vraies, mais un gars qui paye 45 millions de dollars, pas 45 000, mais 45 millions de dollars pour cacher des choses, là, ça, c'est douteux. Et on l'adore! Puis quand on compare Jésus-Christ avec Michael Jackson, essaye donc de m'expliquer pourquoi on adore Michael Jackson au lieu d'adorer Jésus-Christ. Mais c'est parce que l'homme naturellement adore. en est fait ainsi. On va adorer quelque chose. On va adorer quelque chose. Jean, ici, il se trempe. Parce qu'il faut adorer la bonne personne. Sachant que notre cœur est ainsi fait, qu'on va adorer quelque chose, puis aller dans n'importe quelle société, puis ça va être le soleil, ou les astres, ou la lune. Lisez l'histoire, c'était des vaches, c'était des grappots, c'était des bébites quelconques. Hein? On a toujours adoré quelque chose. Puis Jean, même l'apôtre Jean, écoute bien, il a quelque part tout près entre 90 et 100 ans lorsqu'il écrit cela-là. C'est le dernier des apôtres qui vit. C'était vers la fin du premier siècle. Il a connu le Seigneur Jésus-Christ personnellement. Il est fidèle serviteur, un des leaders de l'église d'Éphèse. Il a été persécuté parce qu'il n'a pas régné la foi. Puis même Jean se trompe de personne qu'il voulait adorer ici, parce que cet ange qui lui adore, cet ange qui montre des choses, Jean tombe à ses pieds, puis il adore. Puis ce n'est pas la première fois qu'il fait ça dans l'Apocalypse. Pas la première fois. Pas la première fois que le grand apôtre Jean se trompe en adorant la mauvaise personne. Et si Jean l'apôtre s'est trompé, puis s'il a fallu que l'ange lui dise, « Fais pas ça! Adore Dieu! Fais pas ça! » Il me semble que ça fait quelques semaines, j'ai prêché sur l'Apocalypse 19, et la même chose est arrivée. Et si Jean a fait cette erreur-là, puis à répétition, nous aussi, il faut faire attention. Puis attention de ne pas adorer Michael Jackson, ou quand j'étais jeune homme, c'était Olivia Newton-John, ou je ne sais pas qui. Pas une vierge, ou pas un saint quelconque. L'adoration réservée à Dieu. Puis devant le fait que Jésus revienne, nous devons être un peuple de Dieu qui adore. Troisièmement, il y a une proclamation immédiate. La proclamation de la vérité est urgente. Pourquoi cette semaine, comme Église, cet été, on dépense, je ne sais pas, 20 000 $ ou plus, puis qu'on distribue tous ces évangiles de Jean, puis on fait tous ces événements au parc P12. Pourquoi qu'on fait cela? Parce que la proclamation de la vérité est urgente. La vérité concernant la fin du temps est maintenant clairement révélée. Dans le livre de Daniel, c'est intéressant. Le livre de Daniel, qui est un livre prophétique, puis on ne peut pas séparer Daniel puis l'Apocalypse, on dit à Daniel, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Daniel est scellé, de sorte que c'était difficile à comprendre pour ces Juifs-là. Mais Jésus dit ici, là, « Ne scelle point les paroles. » Ne scelle point la parole. Il y a au verset 11 un verset difficile. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que veut dire ces versets? J'ai écrit quelques phrases ici pour nous aider à peut-être comprendre ce qu'on est en train de dire. D'abord, avec plus de lumière vient une plus grande responsabilité. Est-ce que vous réalisez que vous êtes plus responsable que d'autres personnes à cause de votre connaissance? Votre connaissance n'est pas une qualité en elle-même. Est-ce que vous comprenez cela? La connaissance n'est pas une qualité. D'ailleurs, Paul va bien avertir l'Église de Corinthe que la connaissance enfle. Qu'est-ce que la connaissance fait? Ben non, c'est pas vrai. Mais une des choses que la connaissance fait, c'est qu'elle nous apporte la responsabilité. Et si je sais des choses de Dieu, je suis responsable davantage responsable d'obéir et de mettre en pratique. Deuxième chose que j'ai écrit, c'est ceci. Notre style de vie conduit à une destinée. Ah, on est sauvé par grâce. Et cette grâce-là, nous apporte le salut par la foi, et ça apporte des changements dans notre vie. Mes chers amis, quand on pratique une habitude, quand on pratique des choses dans notre vie, ça nous amène une destinée. Et souvent, lorsqu'on regarde les pratiques de notre vie, ça nous démontre qu'est-ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Le passage le dit. celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se sue encore. Comme une fois, j'essaie d'aider des personnes pris dans la boisson, esclaves de leur sexualité, esclaves de leur immoralité, esclaves du boisson, pas capables de rompre l'habitude. Puis le danger ici, c'est que quand on persiste, j'écris ceci, plus que nous persistons dans nos habitudes pécheresses, plus que cela devient difficile de changer. Si ça fait 3 semaines que vous fumez, vous pouvez probablement arrêter assez facilement. Si ça fait 30 ans que vous fumez, c'est plus difficile. Il y a des personnes ici qui peuvent en témoigner, n'est-ce pas? Des habitudes, plus que ça dure, plus que c'est difficile. Jeune homme, jeune femme, commence pas donc des habitudes que vous allez avoir des difficultés à arrêter plus tard. J'ai écrit aussi ceci, si nous persistons dans le péché, nous endurcissons nos cœurs. Dieu le dit ici, que ceux qui se souillent, qui sont souillés, mais qui soient encore souillés, c'est ça, on endurcit son cœur. Mais celui qui vit pour le Seigneur grandira dans la sanctification. Pendant les dernières années de la vie de mon père, j'ai passé à Vancouver, Abbotsford, Chilliwack, où il demeurait, au moins 2 fois par année. Mon père, qui était élevé dans une famille chrétienne depuis qu'il est né, qui a fréquenté une église où la parole de Dieu a été enseignée, mais qui, à partir de 15 ans, a cessé de suivre le Seigneur. Je n'ai aucune idée si je vais retrouver mon père au ciel ou non. Des fois, je me réveille la nuit et je pense à ça. Ça m'a fait beaucoup de peine. Quand il était plus jeune, je parlais avec lui quand il avait 50 ans, 60 ans, et il a dit, un jour, je vais régler avec Dieu. À l'âge de 83, 84 ans, il avait le Parkinson, il avait de la peine à s'exprimer, il était mêlé dans ses paroles. Je lui parlais du Seigneur, il avait des larmes aux yeux. Il ne pouvait plus régler avec le Seigneur. Il n'était pas capable. J'espère en la grâce de Dieu. Jeune homme, vous jouez au fou dans votre vie? Soyons honnêtes. Jeune femme, vous jouez au fou? Le moment le plus facile de retourner vers Dieu, parce qu'il a les bras ouverts pour vous recevoir, hein? La père du fils prodigue était sur le haut de la maison. Puis regardez au loin, il attendait que son fils revienne. Dieu, en ce moment, a les bras tendus pour toi. Puis c'est aujourd'hui, c'est urgent, parce que plus que vous attendez, plus que ça va être difficile. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux va dire, aujourd'hui, si tu entends sa voix. Dans le désert, ils ont résisté, puis ils ont fini par tomber dans le désert. Leurs cadavres ont tombé dans le désert. Mais celui qui vit pour le Seigneur grandit dans la sanctification. Peu à peu. Peu à peu. Troisièmement, un service immédiat. Quatrièmement, un service immédiat, verset 12. Puis je me permets de vous poser une question. Comment cela va dans ton service pour le Seigneur? Voici, je viens bientôt au verset 14. Puis j'ai marqué Daniel, mais si vous êtes l'Apocalypse. Verset 14. Non. Verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre chacun selon son œuvre. Ça peut être plus négatif ou positivement. 2 Jean, verset 8. Prenez garde de vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. On vit dans une société où on donne un prix à tout le monde. Tu sais, je me souviens quand j'étais sur la commission scolaire, on a écouté consultant qui nous a dit, il ne faut pas donner un premier prix puis un deuxième prix, il faut donner un prix à tout le monde dans la classe parce qu'ils ont tous travaillé. Bon. Et bientôt, on va jouer au hockey puis ça va faire mon affaire parce que le Canadien ne gagne pas souvent. Mais il n'y aura personne qui va gagner puis on va donner une copie de la Coupe Stanley à toutes les équipes. C'est à peu près la seule façon que ça va arriver à Montréal. Non. c'est peut-être une idée moderne, mais la parole de Dieu nous dit que Jésus vient avec des récompenses. Et ces récompenses-là seront pour ceux qui l'ont servi. Puis j'aimerais vous poser une question sur votre service, sur mon service. Vous savez qu'on a une belle assemblée, tellement de belles choses. Je voyage beaucoup, puis je suis toujours content de revenir. Peut-être avons-nous besoin d'apprendre un petit peu sur le service. On me dit qu'il manque des gardiens dans la garderie. C'est vrai, Nancy? Où est-ce qu'elle est, Nancy? Elle est en bas dans la garderie. Elle est bien obligée. Il manque des personnes dans la garderie. Moi, j'ai 4 petits-enfants. Le service de la garderie, c'est important. Il n'y a pas de raison qu'une assemblée avec 250 personnes ce matin qu'on manque du monde dans la garderie. Vous faites quoi pour le Seigneur? C'est quoi votre service dans l'Assemblée, vous? C'est quoi votre service dans l'Assemblée? On nous dit que souvent, plus qu'une Assemblée grandit, plus que l'image c'est ceci, c'est que 20% des personnes font 80% du travail. J'ai l'impression que c'est un peu l'image de notre Assemblée parfois. Il nous manque du monde pour faire les rangs, distribuer les évangiles. Moi, aller frapper sur la porte et donner ça au monde, je trouverais ça difficile. Mais mettre ça dans une boîte à mal, on est capable de faire ça, tout le monde. Il ne devrait pas manquer du monde cette semaine pour faire cela. L'école de dimanche, pour cet été, il manque encore 4 personnes pour le mois de septembre, si j'ai bien compris, c'est ça? Pour l'école de dimanche, les maîtresses, les professeurs de l'école de dimanche sont pas mal en place parce que le programme va commencer au mois d'octobre. Mais pour le mois de septembre, pour l'école de dimanche de l'été, il manque encore 4 personnes. Le ménage, bâtiment là, on parle de la grandeur peut-être. On n'est même pas capable d'entretenir le bâtiment que nous avons. Les amis, il manque du monde pour faire l'entretien. Vous ne pourrez pas venir une fois par deux semaines passer une mop quelque part. Êtes-vous capable de faire ça? Si vous ne pouvez rien faire d'autre pour le Seigneur, c'est un service pour le Seigneur qui vaut tous les autres. Et j'aimerais vous encourager à penser, moi, il y a quelque chose que je peux faire pour le Seigneur. Parce qu'il vient avec des récompenses. Il vient avec des récompenses. Puis ce n'est pas des récompenses pour tout le monde. Et ces récompenses ont une valeur éternelle. Deuxième point, nous avons l'invitation. Nous avons l'invitation. Et nous avons au verset 17 l'invitation. Et après, dans les versets 18 et 19, qu'est-ce qui se passe avec mon PowerPoint? On a perdu des chiffres. Dans le verset 18 et 19, nous avons des motivations pour accepter l'invitation. Dans l'invitation, verset 17, nous lisons ceci, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, vienne, et que celui qui entende dise, vienne, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. » D'abord, l'Église invite ici. C'est comme si l'Église, ensemble, regardait vers les cieux, essaie de voir le Seigneur dans sa gloire. Leur époux, parce que nous sommes l'épouse du Christ. Et nous crions de tout notre cœur, « Viens, Seigneur, on a hâte que tu viennes. » Puis j'aimerais vous poser la question, avez-vous vraiment hâte au retour du Seigneur? Ou avez-vous hâte à d'autres choses? Ça le change notre vie quand on a hâte que le Seigneur revienne. 1 Jean, verset chapitre 3, nous dit que celui qui a cette espérance en lui se purifie. C'est un espoir, c'est une espérance qui purifie, qui change la vie et qui nous aide à mettre en règle les différentes priorités dans notre vie. Hein? Deuxièmement, nous avons l'Esprit de Dieu qui invite, parce que le passage nous dit, l'Esprit et l'Épouse disent. Remarquez bien que le verset 17 commence encore avec cette mot « et »,« kai » dans l'original, qui indique qu'une autre personne parle. Puis ici, c'est l'Esprit et l'Épouse qui parlent ici, puis disent « viennent ». Pourquoi que l'Esprit de Dieu vienne? Bien, pourquoi que l'Esprit invite? Puis j'ai pensé à des raisons négatives puis des raisons positives. D'abord, les raisons négatives un peu. Est-ce que vous réalisez que l'Esprit de Dieu, depuis que l'homme est créé, lutte contre le péché dans ce monde? Genèse 6, avant l'histoire du déluge, Dieu va dire, mon esprit ne sert pas toujours dans l'homme. Avec tout le péché qui règne avant le déluge, au point que Dieu est obligé de détruire presque l'humanité et la terre qu'il a créée par un déluge. Il dit, mon esprit ne sert pas toujours dans l'homme, si je comprends bien le texte hébreu, ne luttera pas toujours avec l'homme, ne sert pas toujours dans l'homme pour lutter. L'esprit nous convainc de péché, dit Jésus dans Jean 15, 16, dans ce passage sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est facilement attristé. Et son travail, c'est d'être dans ce monde. Puis un peu comme nous, des fois, il a hâte que Jésus vienne et mette l'ordre, puis qu'il mette fin au péché. Mais deuxièmement, il y a une question positive. Vous savez, il y a une raison positive. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu, son travail, c'est de glorifier Jésus-Christ. Jésus va nous dire, il ne vient pas pour parler de lui-même, il vient pour parler de moi. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de mettre en évidence, c'est de glorifier la personne de Jésus-Christ. Mais faisons attention à des mouvements évangéliques quelconques où c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est mise beaucoup en évidence, puis qu'on met moins en évidence l'œuvre de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Mais la dernière fois que Jésus était sur la terre, ils l'ont rejeté, ils l'ont fouetté, ils ont crié, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, puis ils l'ont crucifié. Il n'a pas été glorifié. Oh, Jésus revienne. Il revienne en gloire pour établir son règne éternel ou pour mettre en place son règne éternel pour le finaliser. Le Saint-Esprit de Dieu, dans l'œuvre, c'est de glorifier Jésus-Christ, à hâte de ce grand jour quand Jésus va glorifier. Alors, nous l'avons chanté ce matin. Vous l'avez choisi des bonnes cantiques pour introduire notre message. Chers amis, le Saint-Esprit invite Jésus à revenir. Et je pense qu'on a besoin de se regarder le cœur de temps en temps, regarder nos priorités, regarder notre utilisation de temps, regarder ce qu'on lit, notre service, nos buts dans la vie, parce que le Saint-Esprit habite en nous aussi. Hein? Puis ce que le Saint-Esprit dit quand il dit « Vienne Jésus », si vraiment le Saint-Esprit est en contrôle de nous, nous aussi, nous allons dire la même chose. C'est comme si, au verset 17, on disait en cancer, l'Esprit et l'épouse disent. Est-ce que vraiment vous avez hâte au retour du Seigneur? Les motivations pour accepter l'invitation. D'abord, au verset 13 et le verset 16, nous avons l'excellence de sa personne. Au verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Ça, chers amis, on n'a pas le temps de retourner là. Nous l'avons vu au début de l'Apocalypse, comme Will nous dit. Il n'y a rien de nouveau ici. On a eu le prologue au chapitre 1er. Nous avons l'épilogue, puis ça se tient ensemble. Mais ça, chers amis, c'est des titres de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel Dieu, c'est Yahvé, Jéhovah Dieu, qui est l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Puis dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Comment ça fait? C'est parce que Jésus est Dieu. Il est excellent dans sa personne. Au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Cette semaine, mon frère est venu me visiter. On se voit une fois par 10 ans à peu près. Puis par coïncidence, mon fils a trouvé sur un intranet un homme qui s'appelait Ernie Vergent. Et aller sur l'intranet dit Vergent, il n'y en a pas beaucoup au Canada ni dans le monde. On est une race rare. Et travaillé pour Revenu Canada à Montréal, à Ottawa, où mon fils travaille. Puis il a envoyé un email, puis il a réécrit, il dit, « Oh, t'es une virgin, toi! » Puis là, depuis une semaine, 3-4 jours, on s'échange d'emails, puis on essaie de voir la généalogie. Puis moi, je suis le fils de, puis le petit-fils de, puis moi, on a le même arrière-grand-père. Tu sais. Mes chers amis, Jésus est en train de dire, je suis l'arrière-grand-père de David et je suis le petit-fils de David. Hein? Vous le voyez? Je suis le rejeton et la postérité de David. Rejeton, c'est la racine. Je suis l'arrière-grand-père de David puis je suis son petit-fils. En passant, Jésus va poser ce paradoxe-là aux leaders juifs, puis ils n'ont pas pu répondre dans les évangiles. Comment que Jésus peut être l'arrière-grand-père de David, puis son arrière-petit-fils? Et c'est parce qu'il est éternel. Il est son créateur, mais il est devenu homme, descendant de David, pour qu'il puisse occuper son trône éternel. Oh, qu'il est excellent dans sa personne. Nous devons accepter l'invitation de Dieu qui nous dit aujourd'hui, viens! Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais reçu Christ comme sauveur. L'invitation aujourd'hui, c'est viens. Parce que Jésus est une personne excellente. Deuxième raison pour accepter l'invitation ici, c'est l'exclusivité de son ciel, versets 14 et 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Oh, cet arbre de vie et ces portes dans la ville symbolisent tous les nouveaux cieux et les nouvelles terres, symbolisent notre présence avec Dieu dans un ciel éternel, dans sa présence. Tellement grandiose, tellement magnifique, tellement merveilleuse qu'on ne peut même pas le concevoir et le décrire. Mais ces deux choses, la porte puis l'arbre de vie le symbolise, vie éternelle que nous aurions, accès direct avec Dieu par cette porte. Mais c'est exclusif, parce que verset 15 se dit dehors les chiens. Nous autres, les chiens, c'est des petits pitous, puis que je sais que chez mes petits-enfants, le pitou veut bien coucher avec les enfants, puis les enfants veulent qu'ils couchent dans le lit, puis ma fille Marilyn dit non, mais ça arrive des fois que il se passe des choses qu'elle ne sait pas pendant la nuit. Puis, il y en a des chiens de maison. Ma femme voulait en acheter une dernièrement, mais j'ai dit, non, ça pue, je ne les aime pas. À l'époque, quand ceci est écrit, puis dans la culture des Juifs, les chiens, c'est un animal, mais ils ont bien compris, eux autres, ils sont plus intelligents que nous, c'est un animal sale qui mange. Il n'y avait pas deux allées de nourriture, de pitou dans chaque Steinberg ou de chaque Loblaws, là, comme il y a aujourd'hui. Ça mangeait les rebuts dans les vidanges. Puis ça puait, puis c'était plein de bébites. Aujourd'hui encore, c'est plein de bébites. C'était un terme insultant. Chien, c'était le plus bas des créatures. Sale, impur. Magicienne, ça vient du mot intéressant. Le mot pharmacie vient de ce mot magicienne dans l'original. Parce que dans le temps, peut-être plus qu'on pense aujourd'hui, il y avait un lien entre les drogues et la sorcellerie. Combien de jeunes hommes et de jeunes femmes ont perdu leur âme avec la drogue? Ouvre la porte à des influences démoniaques occultes. Débauché, l'immoralité, meurtrier, idolâtre, quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors! Dehors! Pas de place pour eux au ciel. Le ciel est exclusif. On a l'impression aujourd'hui que tout le monde va aller au ciel. Non. Le ciel, c'est pour ceux qui sont purifiés. En s'approchant de Jésus-Christ, en acceptant son salut, en devenant enfant du Seigneur, l'exclusivité de son ciel. Troisièmement, la véracité de ces Écritures, au verset 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Chers amis, Ce n'est pas vrai qu'il y ait plusieurs façons de s'approcher de Dieu. Ce n'est pas vrai qu'il y ait plusieurs vérités. On vit dans un âge postmoderne où tout est relatif, où il n'y a pas de vérité absolue. Jean, ici, inspiré par Jésus-Christ, il dit ceci, que la seule vérité est dans la parole de Dieu, puis que celui qui enlève quelque chose de la parole de Dieu ou qui veut ajouter d'autres choses à la parole de Dieu fait partie de ceux qui sont exclus du ciel. La vérité est exclusive. Il n'y a qu'une seule vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. L'exclusivité de son ciel, la véracité de ses écritures. Puis enfin, la certitude de son ciel au verset 20 et 21. Celui qui atteste ces choses dit oui. Oh, c'est oui. Dans l'hébreu et dans le grec, le mot oui, c'est quoi? Quoi? Amen. Amen. Jésus dit Amen. Amen. Je viens bientôt. Amen. En réponse. Jésus dit oui. Amen. Parce que dans la Bible, c'est un peu se cacher. Là, on dit Jésus dit oui, je viens bientôt. Puis en réponse, nous, on dit Amen, viens, Seigneur Jésus-Christ. Puis dans l'original, c'est le même mot. Jésus dit « Amen, je reviens bientôt ». L'Église répond « Amen, je viens bientôt ». C'est certain, c'est certain. Oh, on peut bien dire « 6 pieds sur la terre » et ça finit là. Ce n'est pas vrai. Nous avons une destinée qui nous attend. Il n'y a que deux destinées. Ce matin, êtes-vous prêt pour le retour du Seigneur? Il pourrait revenir n'importe quand. Sinon, viens me voir. Viens voir les anciens de cette église. Que ce soit réglé aujourd'hui. Qu'on soit prêt pour le retour du Seigneur. Seigneur, sépare-nous avec tes bénédictions. Oh, pour cette personne qui a des doutes dans son cœur. Permets, Seigneur, que cette personne, aujourd'hui, reçoive la certitude du pardon de ses péchés. Sois certaine qu'il est prêt pour le retour du Seigneur. Puis avec l'Esprit, puis tout ensemble, notre Église dit, Seigneur, viens bientôt. Nous avons hâte de ton retour. Au nom de Jésus, nous prions.